Chapitre 3. Quand le marquis arriva au château de Rudemont, M. de Carquebus était absent. Ce fut seulement à une heure avancée dans la nuit qu'il rentra, un peu lancé, parce qu'il avait dîné avec des amis, ceux qui s'appellent de solides matins, qui n'ont pas peur d'une bouteille. En apprenant par la femme de service qu'il avait attendu que le marquis était de retour avec Mme Clémence, il fut instantanément dégrisé. Le marquis, Madame Clémence, et aussi Monsieur Valéry. Revenu, sans m'avoir averti, est-ce qu'il se fiche de moi? Ne pas m'avertir, mille tonnerres! Mais si ce cri d'une dignité offensée lui avait tout d'abord échappé, le sentiment de sa responsabilité lui revint bientôt. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Demanda-t-il.
Madame Clémence a demandé si vous étiez au château.
Madame Clémence, pas le marquis?
Oh, le pauvre cher monsieur, il n'est seulement pas en état de lever le doigt.
Ah, vraiment, si mal que ça?
Ah, vraiment, mais alors?
Monsieur de Carquebus n'acheva pas, seulement il fut évident que pour lui, la situation venait de changer. Si le marquis n'était pas en état de lever le doigt, il n'y avait pas à se préoccuper de ce qu'il avait pu dire. Qu'importait?
Quand j'ai entendu une voiture s'arrêter devant le perron, continua la servante, heureuse d'avoir une histoire à raconter. J'étais dans ma cuisine, en train de dîner. Oh ! Dit une voix que je ne connaissais pas. Et une voiture s'arrête. Me voilà toute saisie. Ah, mon Dieu ! Que je m'écris, me parlant à moi-même. Bien sûr qu'il y a du malheur d'arriver. Vis donc mon verre de boire. Pour sûr, c'est monsieur qu'on rapporte. Je pensais à vous tout naturellement. Je monte, et qu'est-ce que j'aperçois ? Madame Clémence sur le perron et Monsieur Valéry en train de descendre Monsieur le marquis de la calèche. Il le soutenait sous les deux bras comme un enfant. « Où est Monsieur de Carquebus ?» demanda Madame Clémence.
« Ah ! Elle m'a demandé. »
C'est le premier mot qu'elle a dit. Je lui réponds que vous êtes à la foire d'Annebault et que vous ne rentrerez bien sûr que dans la soirée.
« C'est bien, qu'elle répond. Peu importe, au surplus. »
« Comment, peu importe ?»«
C'est ce qu'elle m'a dit, aussi vrai que je vous vois. Mais si je vous rapporte les paroles, je ne peux pas vous rendre comment elles ont été prononcées. Roide à vous faire trembler. Ah, elle ne revient pas commode, Madame Clémence, elle qui, autrefois, était si polie avec mes domestiques. Pour lors, elle me dit qu'il va falloir servir quelque chose de froid à Monsieur le Marquis pour son souper, et elle me demande ce que j'ai. » Bien embarrassée que je me trouve, car je n'avais qu'une dinde que j'avais fait rôtir pour vous, si en rentrant vous aviez faim.
Vous n'avez pas donné ma dinde, j'espère bien.
Mais dame, oui monsieur, je n'ai pas pu faire autrement.
Mille millions de tonnerres, s'écria Monsieur de Carquebus, ils m'ont mangé ma dinde.
Si vous avez faim, je vous ai gardé les filets.
Je n'ai pas faim. « Mais c'est se ficher de moi d'avoir touché à ma dinde, une dinde cuite pour moi. »
Je pensais bien que monsieur ne serait pas content. Mais comment faire? Monsieur Valéry est venu dans la cuisine et il ne s'est pas gêné pour découper la dinde. Il ne voulait vous laisser que la carcasse, j'ai eu bien de la peine à sauver les filets.
Encore un que je vais mettre au pas.
Pour ça, il ne l'aura pas volé, car il est encore plus fier et plus insolent avec le monde qu'autrefois. Si vous saviez comme il a crié, parce qu'il n'a pas trouvé de plateau d'argent pour porter sa volaille et ses assiettes, on dirait qu'il ne peut toucher qu'à l'argent ou alors. Enfin, il a servi Monsieur le Marquis et Madame Clémence dans l'appartement de Monsieur le Marquis.
Ils ont soupé ensemble?
Mais oui! Alors on a couché, monsieur le marquis, car ce n'est plus lui qui se couche. Un homme qui, il y a 2 ans, en descendant de son grand cheval noir, enjambait 3 marches du perron à la fois. Faut-il qu'il soit changé? Quand monsieur le marquis a été couché, madame Clémence m'a fait appeler dans la salle à manger. Qu'est-ce que c'est que ce chenil? Qu'elle m'a dit en montrant les bouteilles qui étaient sur les dressoirs. Je lui ai répondu que c'était vous qui vouliez que les bouteilles fussent rangées de cette façon parce que ça vous était plus commode quand, le matin, vous vouliez boire un verre de vin blanc ou bien, dans la journée, quand vous vouliez vous rafraîchir. Pendant que je parlais, M. Valéry regardait Mme Clémence et il riochait.
Ah, il riochait. Il me paiera ça. Madame Clémence, elle, ne riait pas. Quand j'eus fini mes explications, elle me dit, sans me regarder, comme si elle parlait à la muraille, « Vous allez me jeter tout cela dehors. » Dehors, le vermouth de M. Artem, que je lui dis, son cognac, son calvado. Mais sans m'écouter, elle dit à Valérie, qui paraît faire tout ce qu'elle veut, « Vous allez descendre au village. Vous prierez le menuisier d'être ici demain matin à 5 heures avec des ouvriers pour racler ce parquet. » Vous commanderez aussi au peintre de venir à 7 heures pour l'encaustiquer et le frotter. Il faut qu'à 11 heures, monsieur le marquis puisse venir déjeuner dans cette salle à manger, plus immonde qu'une porcherie. Elle a dit une porcherie. Elle l'a dit, puis elle est sortie. À peine avait-elle tiré la porte que ce maudit Valérie s'est mis à rire en me regardant et en me menaçant du doigt. « Nous allons, je crois, en voir de drôles, » a-t-il dit. « Et voilà une petite dame qui va vous faire marcher droit, vous et... »«
Et qui ?»«
Dame, monsieur, je n'oserai jamais répéter ce qu'il a dit. »«
Je le veux. »«
Et votre vieille momie desséchée, qu'il a dit. »«
Vieille momie desséchée ? Qui ça, vieille momie desséchée ?»«
Dame, monsieur, je ne sais pas. »
Monsieur de Carquebus réfléchit un moment. Mais à la fin, il parut trouver qu'il était de sa dignité de ne pas paraître comprendre à qui « vieille momie desséchée » pouvait s'appliquer.
« Où est Madame Clémence présentement » demanda-t-il.
« Couchée, je pense. »«
Où cela, couchée ?»«
Je ne sais pas. Jusqu'à 11 heures passées, je l'ai entendue marcher dans tout le château. J'ai eu l'idée de voir ce qu'elle faisait. »«
Très bonne idée. »
Et je l'ai aperçue qu'elle ouvrait les buffets et les armoires. Alors elle comptait les choses et avec un crayon, elle écrivait sur une feuille de papier.
Au dernier mot, M. de Carquebus ne put pas retenir plus longtemps l'explosion de sa colère et pendant plusieurs minutes, on entendit ronfler tout son répertoire de jurons. Puis, prenant une lumière, il monta rapidement au premier. Il voulait la voir, cette Clémence. Il allait lui parler. Mais ce fut en vain qu'il frappa à la porte de la chambre qu'elle occupait, au temps où elle était l'institutrice de Denise. Cette porte était fermée. Les coups de poing et les coups de pied qu'il donna dedans retentirent sous les voûtes sonores du corridor, sans qu'il entendît aucun bruit dans cette chambre. Où était-elle ? Cette question irrita encore sa fureur, et il était si bien exaspéré quand il rentra dans sa chambre qu'il envoya des coups de pied à tous les meubles qu'il trouva sur son passage. Que ne pouvait-il en faire autant à cette peste maudite ? Comment elle avait l'infamie de se sauver à l'étranger avec ce grand bonnet de marquis, alors que lui, Artem Fabu de Carquebut, l'aimait, alors qu'il avait la bonté de lui promettre qu'il l'épouserait ? Elle l'avait trahi, elle l'avait abandonné. Et maintenant, elle avait l'audace de revenir la tête haute dans ce château et d'y parler en maîtresse. La première chose qu'elle faisait, c'était de manger une dinde cuite pour son souper à lui, Artem, et elle la mangeait avec Arthur. S'il l'avait tenue, il lui aurait tordu le cou. Heureusement pour elle, elle avait eu la prudence de se cacher. Mais où était-elle cachée ? Chez Arthur, sans doute. Dernier outrage, plus exaspérant encore que tous les autres, par cela même qu'il était immédiat. Ce n'était point une crainte plus ou moins probable, c'était un fait certain. Elle était là, quelque part, à 2 pas de lui. S'il mettait le feu au château, s'il les brûlait tous les deux. Le vent soufflait en bourrasque, un rideau allumé par malheur, et le château flambait sans qu'on pût l'éteindre. Oui, mais eux pourraient se sauver, et le château brûlé ne serait plus qu'une ruine. Il ne voulait pas hériter d'une ruine. C'était Rudemont qu'il voulait. Rudemont, tel qu'il avait vu et aimé depuis son enfance, celui dont il s'était toujours considéré comme propriétaire, et en ces derniers temps, avec plus de certitude que jamais, puisque le marquis était menacé d'une mort prochaine. Il parlerait à Clémence, il s'expliquerait avec elle, elle verrait ce qu'était la colère d'un homme tel que lui. Ah, comme il allait la traiter ! Il voulait la voir se traîner à ses pieds. Pendant toute la nuit, il roula dans son esprit le discours qu'il lui adresserait. Il prépara ses phrases, ses airs de tête, ses gestes de mépris.
mais le matin le sommeil le prit et il ne se réveilla que quand on frappa à sa porte. C'était Valérie. « Madame, prie Monsieur Artem, dit le valet de chambre, de descendre dans le cabinet de Monsieur le Marquis où elle l'attend pour lui parler. » Elle l'attendait pour lui parler, c'était elle qui le faisait appeler, il allait se déranger pour elle, lui. Son premier mouvement fut de répondre que c'était lui qui attendait Madame Clémence et qu'elle eut à monter près de lui plus vite que ça. Mais il réfléchit qu'elle pourrait ne pas venir et il avait hâte de débiter son discours. Il se tourna donc vers Valérie et d'une voix pleine de dignité « Dites que je descends tout à l'heure et quant à vous, mon garçon, soyez tranquille. Par la même occasion, je vais régler votre compte. » Chose bizarre, le valet de chambre ne parut nullement intimidé par cette menace et le sourire qu'il avait en entrant, il avait encore sur les lèvres en sortant. Un sourire de suffisance et de moquerie. Au bout d'un quart d'heure, M. de Carquebute fut prêt à descendre et quand il entra dans le cabinet où Clémence l'attendait, il avait sa première phrase sur le bout de la langue. La tête était haute, son regard était imposant, son geste était menaçant. Elle était assise dans le grand fauteuil où le marquis s'asseyait autrefois. Devant elle, sur le bureau, étaient étalées de grosses liasses de papiers d'affaires, des baux, des contrats d'acquisition, des obligations. Des paquets de billets de banque étaient à demi recouverts d'un presse-papier. Tous les tiroirs du bureau étaient ouverts et la porte en fer de la caisse était entrebâillée. La plume à la main, Clémence faisait des calculs sur une feuille de papier couverte de chiffres. Lorsqu'elle vit entrer M. de Carquebute, elle se leva à demi et, du bout de sa plume, lui indiquant un fauteuil, « Je vous demande pardon de vous avoir dérangé si matin, dit-elle. Mais j'ai à vous entretenir d'affaires sérieuses qui ne souffrent pas de retard. Veuillez vous asseoir. » En entendant ce langage, auquel il était si loin de s'attendre, M. de Carquebute regarda autour de lui pour voir si le marquis n'était pas là. Mais il ne le vit point. Ils étaient seuls et la porte qui, de ce cabinet, communiquait avec l'appartement du marquis, était fermée. Alors il se laissa tomber plutôt qu'il ne s'assit, tant son saisissement fut grand.